Comment devenir essentiel à ses clients? Comment proposer de nouveaux services qui intéressent vraiment les dirigeants d'entreprise et dépassent les achats contraints? Par quel sujet commencer? Pourquoi? Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Déchiffre-moi. Je suis Ladine, chargée de marketing digital. Nous allons passer les 15 prochaines minutes ensemble et vous m'envoyez ravie. Transformation. Évolution. Éclairage. Entrepreneuriat. Déchiffrez-moi. Le podcast qui décrypte et inspire l'expertise comptable de demain. Aujourd'hui, je suis très heureuse de m'entretenir avec Philippe Araou, expert comptable, président d'honneur de l'Ordre des experts comptables de 2015 à 2017. Aujourd'hui, Philippe Araou accompagne les entreprises dans leur réflexion stratégique et dans la mise en place de leur transformation. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment allez-vous aujourd'hui? Dans quel état d'esprit êtes-vous?
Je vais très bien, merci. Alors, je suis dans l'état d'esprit de tout chef d'entreprise, c'est-à-dire que je suis concentré sur mon business et comme tout prestataire de service, à la recherche d'une vraie valeur ajoutée pour mes clients, car c'est la seule façon de leur donner satisfaction et donc de les conserver, avec un œil rivé sur l'avenir à court terme, parce que les choses bougent très vite en ce moment, pour être certain de faire les bons choix et de garantir une pérennité à mon activité. Voilà l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui.
Donc un état d'esprit très dynamique. Alors comme je viens de le rappeler, en plus de vos activités d'expertise comptable, vous êtes consultant stratégique. Peut-on revenir sur votre parcours?
Oui, alors mon parcours, parcours d'expert comptable, certes, c'est assez traditionnel, mais le mien a été plutôt atypique pour deux raisons, pour trois raisons. La première, c'est que j'ai commencé par faire des études de lettres, puis par un passage en entreprise avant de me lancer dans des études de comptabilité, j'avais 24 ans. La seconde est que j'ai commencé à exercer en dehors de France, en créant un cabinet en Espagne, à Barcelone, dès que j'ai eu mon diplôme en France, pour servir des entreprises françaises au moment où l'Espagne entrait dans l'Union européenne, c'était en 1986. Et par la suite, je suis revenu en France en partageant mon temps entre les deux pays. Mais il m'est resté de cette première expérience une culture pour l'international, ce qui m'a valu de nombreuses responsabilités dans les institutions internationales de la profession, dont 5 présidences et 2 toujours en cours, et un siège au board de l'IFAC, la Fédération mondiale des experts comptables et des commissaires aux comptes. Et puis la troisième originalité de mon parcours, c'est que j'ai toujours donné de mon temps en dehors de mon cabinet pour les instances de la profession, ce qui m'a valu d'assumer des responsabilités jusqu'au plus haut niveau, dans le syndicalisme pour ECF, l'un des deux syndicats de la profession dont j'ai été vice-président pendant 9 ans avant d'assumer la présidence pendant 4 ans, à la Compagnie des commissaires aux comptes où j'ai été élu pendant 8 ans, dont 6 au Conseil national, 2 au Bureau national et 2 à la présidence de ma compagnie régionale à Pau, et puis à l'Ordre des experts comptables où j'ai siégé pendant 12 ans au Conseil supérieur, dont 2 à la présidence, comme vous l'avez rappelé, de 2015 à 2017. Et ma dernière expérience a été celle de diriger un cabinet de grande taille, 1500 personnes, dont 110 associés, BDO France, ce qui a été une très belle expérience pendant 4 ans, de 2017 jusqu'à cette année. Donc aujourd'hui, j'ai retrouvé mon cabinet d'origine avec une 40aine de collaborateurs et je consacre une partie de mon temps à des prestations de conseil pour accompagner les entreprises dans leur transformation.
Alors donc un parcours très varié. Est-ce que vous pouvez nous partager les valeurs qu'on vous a transmises et qui vous servent aujourd'hui dans vos différentes fonctions, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle?
Alors, si on parle des valeurs, tout d'abord, j'ai trempé dans une ambiance de famille qui m'a appris la valeur du travail. Ça a été la dose d'origine. Mes parents tenaient une activité de commerce de gros. Ils avaient une entreprise, ils travaillaient énormément. Et moi-même, j'ai contribué à l'entreprise familiale dès le plus jeune âge, pendant mes vacances, pendant mon temps libre. Et je ne pouvais pas me rendre compte à l'époque combien cela allait me servir par la suite. Parce que je crois pouvoir dire aujourd'hui que je suis un travailleur forcené, entre guillemets, avec une capacité pas banale, puisque je totalise chaque année entre 4000 et 4500 heures sans avoir du tout l'impression de forcer.
Oui.
Ce qui est, oui, le double de ce que fait habituellement un expert comptable, hein, ou un chef d'entreprise. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que cela est venu de mon éducation, j'ai pas de doute. Alors, bon, au-delà du quantitatif, ce sont des valeurs qualitatives qui m'ont été transmises et qui m'ont été précieuses tout au long de ma vie et qui ont eu trois origines. D'une part, au sein de ma famille, où j'ai reçu une véritable éducation morale, comme cela ne se fait plus ou rarement aujourd'hui. Ensuite, c'est la pratique du sport qui m'a beaucoup appris.
Ah oui.
Ça m'a appris à respecter des règles, à me comporter en société. Et puis, bien sûr, mon parcours de formation d'expert comptable avec l'enseignement des valeurs d'éthique et de responsabilité. Alors, bon, je suis convaincu que la pratique de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes ne peut pas se faire sans être fortement imprégnée de valeurs. Nous sommes des professionnels engagés avec un rôle important au sein de la société, ce qui nous oblige à une exemplarité, un comportement irréprochable. Et à l'heure où notre société se dématérialise et où la technologie vient supplanter l'être humain dans de nombreuses fonctions, il faut se poser la question du sens à donner et par conséquent des valeurs. Si les robots peuvent faire beaucoup de choses, il y a un domaine où ils n'entreront jamais, c'est bien celui de la conscience. Et nos métiers exigent cette conscience, exigent un jugement, ce qui repose sur une culture, mais surtout sur des valeurs.
Et si vous regardez le rétroviseur, est-ce que ce parcours, vous l'aviez planifié? Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que, si c'était possible, vous reviendrez sur certaines décisions ou vous êtes satisfait de ce parcours?
Bon, alors, je m'étais pas vraiment planifié un parcours. Quand on est jeune, on ne sait pas ce qu'est l'expertise comptable et on le découvre par la suite. Donc, j'ai plutôt suivi mes intuitions et je crois avoir su faire les bons choix, car, bon, pour répondre à votre seconde question, je n'ai aucun regret. J'ai jusqu'à ce jour vécu une vie vraiment passionnante, avec énormément de plaisir dans tout ce que j'ai fait, ce qui ne pouvait être autrement parce que je suis un être passionné par nature. Donc, je suis très heureux d'avoir fait le choix de l'expertise comptable, car c'est un métier qui permet d'assouvir ses passions. Et je suis très reconnaissant à la vie de m'avoir permis de vivre cette expérience, parce que je pense que c'est un luxe de prendre du plaisir dans son travail, ce
Tout à
qui est
fait.
quand même la meilleure méthode pour ne pas le considérer comme un travail, quoi.
Oui, exactement. Alors, Philippe, vous êtes expert comptable, hein. Vous avez été également président de l'Ordre des experts comptables et vous êtes consultant. Est-ce que dans toutes les missions que vous avez pu embarquer, il y a des sujets qui vous animent plus que d'autres?
Alors, je vais dire, pour faire court, 35 ans d'expérience aujourd'hui. Si j'essaie de retenir un fil conducteur au long de ce parcours, je crois pouvoir dire que c'est de servir les autres qui m'anime. C'est ce qui me nourrit, c'est ce qui donne du sens à ma vie. Et je pense que c'est ce dont nous avons tous besoin, chacun avec son kiff, comme on dit aujourd'hui. Au-delà du service aux autres, ce qui me motive, me passionne, c'est la conduite du changement. Mon exercice préféré est celui de la feuille blanche, celui qui oblige à se creuser les méninges pour sortir du jus de cervelle, non seulement avec son savoir-faire, mais surtout avec son intuition et avec sa vision. Ce sont des atouts, je pense, qui prennent toute leur dimension aujourd'hui où nous sommes entrés dans un monde nouveau où tout est à construire. Je pense qu'il faut de la foi pour s'engager, pour bâtir, ce qui me fait penser à toutes les périodes de l'histoire de notre civilisation où il a fallu des pionniers pour aller de l'avant. Et ce n'est pas pour rien que j'ai baptisé mon dernier livre qui vient de sortir, Tout change, même les entreprises.
Oui.
Donc je suis dans cette dynamique-là d'aller de l'avant et de construire.
Et justement, pour revenir à votre livre, alors moi j'ai lu celui d'avant, j'ai écouté également une interview radio où vous parliez de la raison d'être hein, des entreprises et d'orienter un peu toutes les stratégies autour de la raison d'être avant de mettre en place des stratégies commerciales. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce concept de la raison d'être de l'entreprise? Que vous conseillez de mettre en avant.
Oui, alors moi je pense que c'est un sujet aujourd'hui qui s'est invité dans le débat public. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet de société. Alors ça ne concerne pas que les entreprises, mais ça concerne aussi les entreprises. C'est pour ça que je dis même les entreprises doivent changer. Alors c'est un peu surprenant parce que l'objet d'une entreprise a toujours été, on va dire par définition et avec les enseignements qu'on a reçus, de dégager du bénéfice, de sortir des profits et d'investir ou de distribuer un peu importe l'utilisation qu'elle en a, mais en tout cas de dégager du bénéfice. Et aujourd'hui, cet objet ne peut plus être le seul objet. Évidemment qu'il faut que l'entreprise soit rentable et qu'elle dégage du bénéfice, Mais il faut aussi qu'elle se responsabilise, qu'elle ait un rôle à jouer dans la société. Alors, elle le fait, je dirais, par définition et par essence. Chaque entreprise joue un rôle, mais il faut peut-être le mettre plus en avant. Il faut le matérialiser, le conscientiser. Il faut donner du sens et communiquer. Et donc, ça entraîne des dynamiques au sein des entreprises pour se poser des questions et pour essayer de fédérer les énergies, de rassembler tout le monde autour de concepts, autour d'objectifs. Et c'est cette dynamique-là qui est peut-être nouvelle aujourd'hui, c'est la recherche de sens, donner du sens à son action. Quand on parle de responsabilisation, évidemment, on pense aux questions environnementales, mais ce n'est pas que ça. Ça concerne aussi le sujet de la matière sociale au sein de l'entreprise, la matière de la gouvernance. Et je pense que ça va aider les entreprises à se fortifier, à se structurer et à certainement regarder l'avenir avec plus de confiance. Donc moi, je suis très positif, très enthousiaste à ce que cette démarche peut apporter aux entreprises.
Oui, c'est vraiment une nouvelle dynamique et c'est vrai que toutes ces questions d'intelligence collective, de sens, c'est devenu aussi importante que des questions de productivité des entreprises. Et justement, on peut revenir un peu sur l'évolution du métier d'expertise comptable. Alors, c'est un marché qui est en pleine évolution avec l'arrivée des nouvelles technologies. On l'a vu avec l'intelligence artificielle, la facture électronique à venir, enfin avec son obligation à partir de 2024. Et puis, tous ces nouveaux acteurs qui viennent concurrencer un peu les cabinets comptables traditionnels. Est-ce que vous avez des ressorts ou des facteurs clés justement de succès pour maintenir une bonne relation client et fidéliser également ses clients?
Oui, alors bon, vous avez raison de poser la question parce que tout le monde se la pose aujourd'hui. Surtout pour les activités de prestation de services. C'est pas que les experts comptables, mais on sent bien que tout est chamboulé dans notre société et le confinement que nous avons vécu nous a appris à concevoir les choses autrement. Donc, se pose la question de savoir quelle est la bonne relation client aujourd'hui et dans cette période de transformation et d'évolution avec le digital qui prend le dessus. Et pour moi, la réponse, bien, c'est la valeur ajoutée. C'est ce que je disais en introduction tout à l'heure, cette recherche de valeur ajoutée. Que peut-on apporter à son client qu'il n'a pas déjà ou que d'autres ne peuvent lui apporter? Et j'ajouterais, ou qu'il ne peut pas trouver avec la technologie d'aujourd'hui, parce que on voit combien le concept de service, de prestation de service est challengé aujourd'hui avec la technologie. Pour notre profession d'expert comptable, c'est un changement de paradigme complet. Et pendant mes deux présidences à l'ordre, je n'ai cessé de répéter, c'était plusieurs fois par jour, je bassinais tout le monde avec ça, une formule que j'avais inventée, de plus en plus expert, de moins en moins comptable. C'était en 2015, donc il y a 6 ans, mais bon, le mouvement était déjà engagé. Et l'avenir de la profession est indubitablement le conseil. On le sait, on le dit depuis longtemps, mais là, on y est. Parce que bon, le mot est tellement galvaudé que c'est devenu la tarte à la crème. Mais il n'empêche que là est la direction à prendre, quelle que soit la forme, c'est-à-dire le type de service à proposer. Ce qui me semble une évidence, c'est que l'expert comptable doit être plus proche de son client et certainement plus présent au sein de l'entreprise pour jouer un rôle plus important, notamment en termes de prospective, d'aide à la décision. Pour moi, la solution pour l'expert comptable, c'est vraiment d'entrer dans le business de leur client et d'avoir un rôle plus impliqué, d'être plus proche du dirigeant et l'aider à prendre les bonnes décisions.
Humaniser encore plus de l'humain, humaniser la relation client, même si on a les outils digitaux.
C'est ça, parce que tout ce qui peut être automatisé l'est déjà ou va l'être. Donc, il faut se placer sur un autre créneau. Et ce créneau, c'est l'humain, vous avez raison. La place d'expert comptable, c'est ce que ne pourra pas faire un robot.
Alors, Philippe, vous avez occupé également des fonctions managériales. Est-ce qu'on peut revenir sur la gestion du confinement et du déconfinement? Comment l'avez-vous géré et quels enseignements, justement, avez-vous tiré de cette période très particulière?
Ça a été une expérience terrible. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais les premiers temps, le premier confinement, ça a été vraiment terrible. Ça nous a renvoyé à des pages sombres de l'histoire de l'humanité. Oui. Et nous avions eu peut-être le tort d'effacer ces éventualités du champ des possibles. Et ça a été une incroyable leçon d'humanité à l'échelle collective, mais aussi à l'échelle individuelle. Et moi, personnellement, j'ai vécu cette expérience comme un signe très fort d'une fin de cycle. Bon, je ne veux pas dramatiser, mais vous me demandez comment je l'ai vécu. Oui. J'ai ressenti cette fin de cycle parce qu'il m'a semblé évident qu'il fallait voir une alerte à prendre très au sérieux qui ramenait l'homme à son destin. L'évolution scientifique et technologique de notre société a peut-être eu le tort de nous laisser croire à notre invincibilité. Hein, l'homme est très, très, très fort, c'est bien connu. Il ne pouvait rien nous arriver, nous avions pris le dessus. Or, là, on n'avait pas vu venir le coup, personne n'a vu venir et ça a permis, de remettre
les pendules
à l'heure. Ouais. Donc, l'homme et la société ont leurs limites et même s'ils sont capables de réagir très vite, ce que nous avons vu, hein, ils peuvent se faire déborder. Et il ne faut pas oublier que Dame Nature a ses lois universelles qui sont intangibles et je pense que nous n'avons pas fini de vivre des déconvenues. Depuis le temps que des catastrophes sont annoncées par des scientifiques, eh bien, là, nous approchons d'échéances dramatiques. Évidemment, je parle de questions environnementales, hein,
oui.
Climat. Hein. Mais bon, notre société aujourd'hui n'a plus le choix, n'a pas d'autre choix que de changer d'orientation et de prendre un virage à 180 degrés. Donc voilà ce qu'il faut retenir, à mon avis, hein, de cette crise de pandémie.
Oui, le garder en tête tout en avançant, mais ne pas l'oublier justement pour éviter... Est-ce que vous pouvez nous partager un proverbe ou un livre, une rencontre, quelque chose qui vous anime au quotidien ?
Alors, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ce qui m'anime, c'est la construction de la société de demain. C'est le monde que nous allons laisser aux générations futures, celle de mes petits-enfants, puisque j'ai le bonheur d'être grand-père. C'est la place de l'être humain dans une société technologique. On est en plein dans ce débat aujourd'hui. Et ce sont les valeurs humanistes de respect, de partage, d'amour, ce qui nous ont été transmises, ce que nous avons reçu. Et la question qui se pose, c'est comment les transmettre à la génération d'après. Il faut le dire avec un mot, je vais vous dire tout simplement, c'est la place de l'amour dans la société. C'est quand même un joli programme,
oui.
Non ?
Ah oui. Oh, oui, c'est universel et c'est essentiel.
Voilà.
Merci Philippe. Maintenant, chères auditrices et auditeurs, c'est à vous de travailler. Ce podcast est fait pour vous. Je vous invite donc à nous envoyer les questions qui vous trottent dans la tête ou simplement celles auxquelles vous ne trouvez pas de réponse satisfaisante. Pour ce faire, c'est très simple, vous nous écrivez à communication@agiris.fr. L'adresse mail se trouvera dans la description de cet épisode. Sur ce, je vous dis merci à toutes et tous. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous le dire, donnez-nous des étoiles et partagez-le. À très bientôt. Merci Philippe. À bientôt. Au revoir.